Ce samedi soir, 12 novembre 1994, nous continuons le thème « L'Esprit de Dieu à la lumière des Saintes Écritures ». Et comme c'est une immersion biblique, eh bien, nous allons considérer, après avoir vu ce que nous trouvions dans les évangiles, nous allons considérer l'enseignement des apôtres sur le Saint-Esprit, et spécialement l'enseignement de l'apôtre Paul. Où, quand, comment et à qui le Saint-Esprit fut donné, nous avons pu trouver déjà des réponses dans l'Évangile et dans les Actes. Alors maintenant, puisque, je le répète, c'est une immersion biblique, il est important de sonder les épîtres où la doctrine du Saint-Esprit est développée. Combien l'apôtre Paul a-t-il écrit d'épîtres, ou bien combien lui en attribue-t-on? 13, hein? C'est bien, Jean. Je vois que c'est bien versé. Maintenant, je m'en vais vous parler en langue. Oui. Pour ceux qui ne savent pas, pour lire les épîtres, hein, pour avoir ça en mémoire, mon cher ami M. Champandel, qui était président de la Vénérable Compagnie des Pasteurs de Genève, qui avait été fondée par le réformateur Calvin, il aimait bien revenir toujours là-dessus, avec ses étudiants à Emmaüs ou ailleurs, et il leur apprenait cela, « Rococo galefico tetetetet » Romain, hein, Rome, Coco, 2 Corinthiens, hein, Gal, F, Éphésien, Phi, Philippiens, Co, Colossiens, Rococo, Galéfico, T, 2 Thessaloniciens, Ti, 2 Timothée, et Tis, et Phi, Philémon, hein. Rococo galefico, tete, tititi, fi. Voilà. Alors, vous pouvez vous y retrouver. Bien sûr, il y a l'épître aux Hébreux, mais qui est anonyme. Parce que, pourquoi? Parce que c'est le Seigneur qui est présenté au-dessus de toutes choses. Alors, il ne faut pas qu'il y ait d'auteur. Le nom de l'auteur, ça compte pas. Mais on a cherché, et on pense, certains pensent que c'est quand même Paul qui aurait écrit l'Épître aux Hébreux, ce qui en ferait 14. Hein. Et puis d'autres pensent que c'est Barnabas, enfin un compagnon de Paul. Peu importe, nous croyons que c'est le Saint-Esprit qui nous a donné ces épîtres. Et pourquoi avons-nous ces épîtres? Si Paul n'avait pas eu d'épreuves et n'avait pas été en prison, est-ce qu'il aurait pu écrire? Si souvent? Non. Alors vous voyez que même les épreuves ont été en bénédiction pour nous tous. Nous avons des épîtres. Et alors, la manière dont le Saint-Esprit est présenté dans ces lettres est toujours déterminée par le but que ces épîtres poursuivent. Alors vous devez chercher le but de chacune de ces lettres. Il y a un but. Pourquoi est-ce que Paul a écrit? Il y avait un but. Alors, la première, la grande épître, ce n'est pas la première qu'il a écrit, la première c'est Thessalonicien, mais la première épître, la plus longue, enfin, et la plus profonde peut-être, c'est l'épître aux Romains, n'est-ce pas? Et alors, notre temps est forcément très limité. Et ne voyez pas dans cet exposé d'autre chose que quelques pistes de réflexion. Et après cette retraite, dans vos demeures, vous relirez ces épîtres. Et vous transformerez, comme je le dis souvent, ces pistes de réflexion en de larges avenues où vous vous sentirez à l'aise. On a souvent rappelé que Luther, par exemple, qui était converti par l'Épître aux Romains, eh bien, Luther lisait l'Épître aux Romains une fois par semaine. Une fois par semaine, il lisait toute l'Épître aux Romains. On dit, oh mais non, on le connaît, on a déjà lu ça. Non mais notre esprit est tellement oublieux. Alors, une fois par semaine, il lisait l'Épître aux Romains. Calvin, un autre réformateur, qui était, bon, tous des anciens catholiques qui sont venus à l'Écriture, eh bien, il disait que c'était la clé d'or des Écritures. Mais je ne vais pas me perdre dans des citations d'auteurs. Mais ce que nous savons de l'Épître aux Romains, quand nous prenons le premier chapitre, nous trouvons déjà le Saint-Esprit qui est appelé l'Esprit de sainteté au chapitre premier, au sujet de la résurrection du Seigneur. Il a été déclaré avec puissance, Fils de Dieu, selon l'Esprit de sainteté, verset 4, par sa résurrection donc, d'entre les morts, Jésus-Christ notre Seigneur. Donc là, comme je vous le disais déjà dans une autre rencontre, la résurrection du Seigneur est attribuée aussi à l'Esprit Saint. Mais il était déclaré Fils de Dieu avec puissance. Maintenant, au chapitre 5, on va juste passer au verset 5e. Qu'est-ce que nous apprenons? Que le Saint-Esprit opère. Chapitre 5, verset 5, puisque c'est une citation, j'espère la faire assez forte. Or, l'espérance que nous avons, elle ne trompe pas, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs, par qui? Par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Là, la Pentecôte a eu lieu, donc on parle d'un Saint-Esprit qui a été donné. L'événement a eu lieu. Et l'œuvre du Saint-Esprit a été de répandre l'amour de Dieu dans nos cœurs. Est-ce qu'il y est encore? L'amour de Dieu est versé dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Ce n'est pas nous qui nous efforçons d'aimer. Nous ne savons pas aimer, nous ne pouvons pas aimer. Mais si nous laissons le Saint-Esprit nous remplir, comme Marie s'est laissée couvrir par le Saint-Esprit, eh bien l'amour de Dieu, il est là. Et on aime de l'amour de Dieu. Et alors, je passe jusqu'au chapitre 8, où vous trouvez dans ce merveilleux chapitre combien de fois le Saint-Esprit, dans ses versets 1 à 39, 19 fois, dans ce seul chapitre, le Saint-Esprit revient 19 fois. Alors, vous comprenez, si on s'arrêtait sur chaque verset, je n'aurais pas fini à moins le quart. Alors, nous vous demandons de vous imprégner de ce chapitre 8. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ, dans le Christ Jésus, et qui marchent non selon la chair, mais selon l'Esprit. Pour ceux qui marchent selon l'Esprit, il n'y a plus de condamnation. En effet, la loi de l'esprit de vie, qui est en Jésus-Christ, m'a libéré de la loi du péché et de la mort. Voyez-vous, la loi du péché, c'est comme la loi de la pesanteur. J'ai souvent donné cet exemple. Ce stylo, il a bien quatre couleurs, c'est bien. Mais si je le laisse comme ça, il tombe. Hein. Qu'est-ce qu'il subit? La loi de la pesanteur. Je peux bien exhorter mon stylo, reste là. Si je lâche, il tombe. Puis il est parfaitement inutile. Mais si par la loi de la vie qui est dans mon bras, j'affranchis mon stylo de la loi de la pesanteur, il ne tombe pas et il me devient utile. Alors c'est ça, la loi de l'esprit de vie qui est dans qui? En qui? Dans le Christ Jésus. Vous avez besoin du Christ Jésus, mais tous les jours. Et vous avez besoin d'être tenu par lui tous les jours. Jésus nous l'a montré, il était tous les jours dans le Saint-Esprit. Eh bien, si nous nous abandonnons dans la main du Seigneur, et c'est une main qui porte la marque de son amour, elle a été percée. Alors, vous êtes tranquille dans la main du Seigneur. Il y en a plusieurs qui m'ont dit qu'ils avaient dès le premier soir reçu déjà cette paix dont nous vous avons parlé, hein. Cette paix au sein même de leurs circonstances difficiles. Eh bien, ce soir, dans la continuation de cette retraite, puissiez-vous comprendre que vous êtes vraiment dans la main du Seigneur. Et si vous êtes dans la main du Seigneur, plus de condamnation. Vous êtes affranchi. Car ce qui était impossible à la loi, tant qu'on était sous la loi, parce que la chair la rendait sans force, la loi, qu'est-ce qu'elle demandait à la chair? D'accomplir le bien. Et quel a été le résultat? La chair a manifesté son impuissance devant la force de la loi. Et alors, que fait la loi? Elle pue. La loi fait mourir. Si on transgresse la loi, on est condamné. Mais il y a une puissance, et ça c'est la puissance du Saint-Esprit. C'est pour ça que vous ne pouvez pas vous en passer. C'est par la puissance du Saint-Esprit que vous triompherez de la, du péché, de la chair, de l'attraction du monde, et que vous commencerez à aimer les choses d'en haut. Vous vous affectionnerez aux choses d'en haut. Et c'est cela qu'il nous faut dans un pareil monde. Or, nous ne sommes pas des visionnaires. Comme je l'ai dit souvent, nous sommes réalistes, nous marchons sur la terre, nous avons les pieds sur la terre, la tête sur les épaules, mais le cœur, il reste dans le ciel. C'est là qu'est le trône de la grâce. Et nous savons que nous recevons grâce sur grâce à tout instant quand nous dépendons du Seigneur. Alors, il y aurait beaucoup de choses à dire sur ce chapitre 8, mais je suis obligé seulement de vous le signaler en vous disant qu'il y a 19 fois le Saint-Esprit et que vous voyez tout ce que le Saint-Esprit accomplit et opère en nos cœurs. C'est lui-même qui nous aide dans nos prières. Quand nous ne savons pas comment demander à Dieu, même le soupir de notre cœur est une prière. Et le Saint-Esprit traduit cette prière au Père. Que c'est merveilleux de savoir ces choses, d'y croire et de les réaliser. Oui, dans ce chapitre, hein, nous voyons la puissance libératrice du Saint-Esprit qui nous est donné, je le répète, pour triompher du péché, de la chair, de Satan et du monde. Mais en dehors du Saint-Esprit, c'est la faillite pour nous. La rédemption nous a amenés, par la foi en Christ, à cette position de fils dont nous vous avons parlé, et nous avons l'esprit du Fils de Dieu, donné comme puissance, par lequel nous pouvons dire à notre Père des cieux, qu'est-ce que nous pouvons lui dire? Abba, c'est-à-dire Papa. L'expression la plus intime. Voilà la relation que nous avons. Maintenant, si vous allez au chapitre 9, vous entendez Paul qui dit, je dis la vérité en Christ, je ne mens pas, ma conscience m'en rend témoignage par qui? Par le Saint-Esprit. Vous voyez, c'est le Saint-Esprit qui rend témoignage au sujet de ce que Paul va dire. Et puis, vous continuez dans cet épître aux Romains qui est si riche. J'arrive au chapitre 14 pour vous montrer que dans un monde où de plus en plus la nourriture, l'alimentation, j'ai rien contre cela, hein, mais ça est devenu presque une religion. Ce que nous mangeons, ce que nous ne devons pas manger, c'est devenu, pour ainsi dire, une religion. Eh bien, qu'est-ce que nous trouvons pour équilibrer tout cela au chapitre 14, verset 17? Parce que voyez-vous, il n'y a que la parole qui nous tient dans l'équilibre. Le royaume de Dieu n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix, la joie, par qui? Par le Saint-Esprit. Oui, tout revient au Saint-Esprit. Et il n'y a pas de contradiction. Vous voyez, quand on est missionnaire, quand on est prédicateur et qu'on doit aller d'un pays dans un autre, à un autre, bien, qu'est-ce qu'il faut faire? Ah non, non, mais moi, chez moi, je ne mange pas ça. Ou je ne bois pas ça. On devient des empoisonneurs. Hein? On est tannant. C'est pas ça. Jésus a dit quoi? Quand vous entrez dans une maison, mangez et buvez de tout ce qu'on mettra devant vous. Alors, ça nous donne une très grande liberté. Puis comme on a rendu grâce, on sait que le Seigneur peut bénir cette nourriture. Puis il n'y a pas besoin de se goinfrer. Il n'y a pas besoin de manger trop. Mangez un peu de tout, puis c'est tout. Et on se portera aussi bien que possible. Mais voyez, le Saint-Esprit est mêlé à toute la vie. Et Jésus nous l'a manifesté. Maintenant au chapitre 15, verset 13e, que lisez-vous encore? Marchons honnêtement, comme en plein jour, sans excès de table, ni de boisson, sans luxure, ni dérèglement, sans discorde, ni jalousie. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. Comment? Non, c'est... Avec mes yeux. Ah non, 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 mais, pardon, c'était chapitre 15. Oui, c'était chapitre 15, verset 13e. Hein?
C'est que le Dieu de l'espérance.
Oui, c'est ça que je voulais. Mais tu vois, entre 15 et 13, ça ne va pas, mes yeux. Alors, que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance, par quelle puissance? Par la puissance du Saint-Esprit. Je m'excuse, hein. Mais peut-être qu'on avait besoin de lire aussi l'autre verset. C'est toujours la parole. Et ça confirmait le verset du chapitre 14e. Alors, c'est le verset 13 du chapitre 15. Maintenant, au verset 19e. Du même chapitre, je crois. Non, non. On voit que Paul attribuait la puissance de son travail au Saint-Esprit. C'est le verset 16, je pense. Hein. Mais au verset 16 aussi, il en est parlé, hein. Mais au verset 19, il parle de la puissance des signes et des prodiges, c'est par la puissance de l'Esprit. Tout ce qu'il a pu accomplir, ou tout ce que Dieu a accompli, c'est par la puissance de l'Esprit en lui. Alors, si Paul nous dit cela, combien plus nous-mêmes avons-nous besoin de faire cette expérience? Et enfin, au verset, je crois, 30e, je vous exhorte, frères, par notre Seigneur Jésus-Christ et par l'amour de l'Esprit. Et cet amour de l'Esprit, il est où? D'après le chapitre 5, versé dans nos cœurs. Par cet amour de l'Esprit qui est dans nos cœurs, à combattre avec moi en adressant à Dieu des prières en ma faveur. Eh bien, que le Seigneur vous bénisse dans votre étude de cet épître aux Romains, où vous y trouverez le Saint-Esprit. Maintenant, dans la première épître aux Corinthiens, le Saint-Esprit nous est présenté sous un aspect tout à fait différent et avec une plénitude qui est vraiment remarquable. Qu'est-ce que nous voyons dans l'Épître aux Corinthiens? Nous voyons la chair qui était à l'œuvre dans l'église de Corinthe, malgré que les Corinthiens avaient tous les dons. D'avoir les dons, ça n'empêche pas la chair de se manifesté. Et alors, cette chair se manifestait de telle manière qu'il y avait dans l'église de Corinthe, quoi? Des divisions. Il y en a qui disaient, moi je suis de Paul, moi je suis de Pierre, de Céphas, moi je suis d'Apollos. Hein? Et puis il y en a d'autres qui disaient, mais moi je suis de Christ. Ce n'étaient pas les meilleurs, mais ils pensaient que s'ils disaient qu'ils étaient de Christ, c'était mieux que tous les autres. Hein? Mais est-ce que Paul n'était pas de Christ? Est-ce que Pierre n'était pas de Christ? Non, mais vous voyez, c'est un esprit de division. Alors, Paul dit qu'ils sont charnels et non spirituels. Et voyez-vous, l'œuvre du Saint-Esprit, il n'y a que le Saint-Esprit qui peut faire cela, c'est d'unir les enfants de Dieu. Le Saint-Esprit, dites-le bien, ne divise jamais les enfants de Dieu. D'où vient la division? De la chair. Dans les Galates, c'est mentionné que la division vient des œuvres de la chair. On ne peut jamais justifier une division par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit sépare du mal et du monde, mais pas des enfants de Dieu. Ça, c'est Satan. Le Saint-Esprit ne me sépare pas des enfants de Dieu. Il m'unit aux enfants de Dieu. Seul le Christ pouvait remédier au mal des Corinthiens, et cela par le Saint-Esprit. Et alors au chapitre 2, je vous ai cité ce matin un verset du chapitre 2 de l'Épître aux Corinthiens. Nous avons plusieurs enseignements au sujet du Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu est vraiment mis en avant dans les versets 9 à 16. Verset 10. À nous, Dieu nous a révélé ces choses par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Qui donc parmi les hommes sait ce qui concerne l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît ce qui concerne Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Ça, c'est bien clair. Mais nous passons au chapitre 3e, au verset 16e. Ne savez-vous pas que vous êtes, qu'est-ce que nous apprenons? Nous-mêmes, individuellement, le temple de Dieu. Donc là où il y a un chrétien, il y a un temple. Vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous. Là, c'est une personne. Est-ce que nous ne le savons pas? Parce qu'il l'oubliait. Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Alors méditez profondément là-dessus. Et la base du temple de Dieu, on est individuellement le temple de Dieu, mais chacun de nous est une pierre. Alors la pierre angulaire dans le chapitre 3, c'est Christ. Paul dit, j'ai posé la pierre angulaire. Mais maintenant, ceux qui continuent, eh bien, ils doivent veiller à ne pas poser sur cette pierre des choses qui ne sont pas valables. Paul parle de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, mais il y a aussi le bois, le foin et le chaume. Tout sera éprouvé par le feu. Donc, nous devons veiller, car si quelqu'un corrompt le temple de Dieu, Dieu le détruira. Maintenant, je passe au chapitre 6, parce que c'est quand même bien important. Nous aurions là plusieurs versets. Verset 17. Celui qui s'attache au Seigneur est un seul esprit avec lui. Et puis, verset 19, ne savez-vous pas ceci? Votre corps, qu'est-ce qui est le temple du Saint-Esprit? Votre corps, il n'est pas dit votre âme. Hein? Il y en a beaucoup. Je me souviens, nous avions une fille qui était en Israël, et elle a été sollicitée, elle était 8 ans là-bas, dans les kibbutz. Elle a été sollicitée par toute espèce de gens qui voulaient coucher avec elle. Elle résistait. et vont lui dire, mais c'est seulement ton corps, c'est de la viande. Alors une fois on mange du bœuf, une fois on mange du veau, une fois on mange du poulet, et après on change de viande. Alors c'est comme ça. Non, votre corps est le temple du Saint-Esprit. Mais ça ne touche pas ton âme que je couche avec toi. Voilà. C'est le raisonnement que l'on entend maintenant. Mais ça ne touche pas l'âme. La parole de Dieu doit avoir autorité sur vous. Votre corps est le temple du Saint-Esprit. C'est là qu'il veut être. Parce que c'est avec nos membres que nous péchons le plus souvent. Mais si notre corps est le temple du Saint-Esprit, avec ses membres, nous les mettrons au service de Dieu. Nous servirons le Seigneur. Nous le glorifierons selon sa parole. Donc le corps de chaque chrétien est un temple. Et le Saint-Esprit se plaît à habiter, non pas dans l'âme qu'on ne voit pas, mais dans le corps du croyant, ce que le monde voit. Et alors, vous arrivez au chapitre 12, qui est un chapitre très important, au sujet du Saint-Esprit, et des dons spirituels. Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez comment, quand vous étiez païen, vous étiez entraîné et dévoyé par des idoles muettes. C'est pourquoi je vous le déclare, nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit Jésus est anathème ou Jésus soit maudit, et nul ne peut dire Jésus est le Seigneur. Mais ce n'est pas simplement une phrase, Jésus est le Seigneur, hein. Mais quand on dit cette parole, on reconnaît la Seigneurie de Christ sur toute notre vie. Et on ne peut reconnaître ça que par le Saint-Esprit. Alors, il y a diversité de dons, mais le même Esprit. Diversité de services, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. C'est le Dieu trinitaire. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune, non pas en vue que nous puissions nous glorifier. En effet, à l'un est donné par l'Esprit, alors vous avez là les 9 manifestations de l'Esprit, du don de l'Esprit. Il y a une parole de sagesse, à un autre, une parole de connaissance, c'est très passionnant de méditer là-dessus, selon le même esprit, un autre, la foi, par le même esprit, un autre, les dons de guérison, par le même esprit, vous voyez, c'est toujours par le même esprit, par le même esprit, il n'y a pas de division, les dons sont divers, mais c'est le même esprit qui opère. Un autre, le don d'opérer des miracles, un autre, la prophétie, un autre, le discernement des esprits, un autre, diverses sortes de langues, un autre, l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Verset 12, alors c'est capital. En effet, comme le corps est un, tout en ayant plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne sont qu'un seul corps, ainsi en est-il du Christ. Et ça, c'est quelque chose de remarquable. Vous voyez que le nom de Christ est donné donc aux membres et à la tête. Le Christ total, c'est pas seulement la tête dans le ciel, c'est aussi tous les membres qui sont sur la terre. Nous faisons partie du Christ. De quoi êtes-vous membre? Du corps de Christ. Voilà ce qui compte. Ne me dites pas autre chose. Vous êtes membre du corps de Christ. Et ailleurs, dans l'Épître aux Éphésiens, nous verrons, il y a un seul corps. Verset 13. Car c'est dans un seul esprit que nous tous, pour former un seul corps, avons été baptisé. Donc, le baptême du Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il a qui le caractérise? Il a été donné pour que les membres individuels qui étaient là à Jérusalem ne soient plus simplement des individus qui se jalousaient les uns les autres, qui demandaient au Seigneur lequel d'entre nous est le plus grand. Ils sont dépréoccupés de tout cela, ils forment un seul corps. Et c'est ça qui est merveilleux quand on a saisi cette vérité, il n'y a plus de jalousie, on est heureux de vos dons. Vous faites partie de ma richesse, et si j'ai un don, il est à vous. Comprenez-vous? On ne se jalouse plus, on accepte que Dieu nous ait donné aux uns ceci, aux autres cela, et c'est cela la richesse du corps de Christ. C'est dans un seul esprit que nous avons tous, pour former un seul corps, été baptisés, soit juifs, soit grecs, soit esclaves, soit libres, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Ainsi, le corps n'est pas formé d'un seul membre, mais de plusieurs. Alors, si le pied disait, parce que je ne suis pas une main, je ne suis pas du corps, il n'en est pas moins du corps pour autant. Et si l'oreille disait, parce que je ne suis pas œil, je ne suis pas du corps, elle n'en est pas moins du corps pour autant. Donc on ne peut pas s'isoler. Si tout le corps était œil, où serait l'ouïe? S'il était tout ouïe, où serait l'odorat? En fait, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il a voulu. Si tous étaient un seul membre, où serait le corps? Maintenant donc, il y a plusieurs membres et un seul corps. L'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi, ni la tête dire au pied, je n'ai pas besoin de vous. Mais bien plutôt, les membres du corps qui paraissent être les plus futiles sont nécessaires. Et combien c'est vrai, hein? Cet exemple de Paul est merveilleux. Et ceux que nous estimons être les moins honorables du corps, nous les entourons d'un plus grand honneur. Ainsi, nos membres les moins décents sont traités avec le plus de décence, tandis que ceux qui sont décents n'en ont pas besoin. Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ce qui en manquait, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les membres aient également soin les uns des autres. Et si un membre souffre, qu'est-ce qui arrive? Tous les autres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Et c'est rare, hein? C'est triste, hein? Au lieu de se réjouir quand on voit quelqu'un qui est béni, vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Et Dieu a établi dans l'Église, premièrement, les apôtres, deuxièmement, les prophètes, troisièmement, les docteurs. Ensuite, il y a le don des miracles, puis le don de guérir, de secourir, de gouverner, de parler divers sortes de langues. Tous sont-ils apôtres? Tous sont-ils prophètes? Tous sont-ils docteurs? Tous font-ils des miracles? Tous sont-ils des dons de guérison? Tous parlent-ils en langue? On voudrait que tous parlent en langue. Tous interprètent-ils? Inspirés aux dons les meilleurs. Et je vais vous montrer une voie plus excellente. Et cette voie plus excellente, c'est quoi? L'amour. La charité. Et puis alors, au chapitre 14, vous voyez comment les dons doivent s'exercer dans l'Église. Et toujours soumission à la parole. Et puis voilà, il faudrait que je m'arrête ici si vous voulez aller dans vos chambres, ou bien j'avais tout à coup une autre pensée, qu'on continue, et puis que, au lieu de vous envoyer dans vos chambres, vous fassiez directement vos appuis. Hein? Ça pourrait marcher aussi. Hein? Puisqu'on fait ça ensemble, et puis après vous allez dans vos appuis. Ça va? Vous êtes d'accord? Je suis pas trop dictateur. Bon, maintenant, on arrive à la deuxième épître aux Corinthiens, où Paul console les saints qui avaient été abaissés. et il leur rappelle toutes les promesses de Dieu. Et au chapitre 1er, je lis depuis le verset 20, toutes les promesses de Dieu sont oui en lui, en Christ. Hein. Tout ce que Dieu a promis a son accomplissement dans le Christ. C'est donc aussi par lui que nous disons à Dieu l'amen pour sa gloire. Celui qui nous a fermés avec vous en Christ et qui nous a donné l'onction, c'est Dieu. Celui qui nous a oint. Il nous a aussi marqués de son sceau et il a mis dans nos cœurs les arts de l'esprit. Alors vous avez trois choses là. Vous avez l'onction, c'était répandre l'huile sur la personne qui était consacrée, nous avons cela ailleurs. C'est une onction qui vient de Dieu. Puis, il est dit qu'il nous a marqués de son sceau. Quand on se donne à lui, quand on se convertit, le sceau, c'est la marque de la propriété. Nous sommes scellés, donc c'est sûr, nous appartenons au Seigneur. Et puis même, qu'est-ce qu'il a mis dans nos cœurs? Les arts de l'esprit. Qu'est-ce que c'est, les arts? C'est la garantie, nous avons déjà une garantie pour le ciel. Nous avons déjà une richesse céleste. Donc il y a trois choses, l'onction, le sceau et les arts. C'est comme une avance qui a été versée. Puis, si je passe tout de suite aux Éphésiens, on reviendra sur les Galates, mais aux Éphésiens, parce qu'il y a à peu près la même expression dans Éphésiens, comme dans, ici, Corinthiens, deuxième épître, Éphésiens 1, verset 12 à 14, ou depuis verset 11, en lui nous avons aussi été mis à part, prédestiné selon le plan de celui qui opère tout, selon la décision de sa volonté, afin que nous servions à célébrer sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, qu'est-ce que c'est la parole de la vérité? L'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru. Et vous avez été scellés du Saint-Esprit. Quand vous avez cru, vous avez été scellés. La parole est claire. Hein? Vous avez reçu le sceau. Le Saint-Esprit qui avait été promis et qui est venu. C'est clair. Et qui constitue le gage de notre héritage. Hein? En vue de la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. Vous rendez-vous compte que Dieu vous a acquis pour que vous célébriez quoi? Sa gloire. Alors, nous retournons à ce que nous avons entendu hier, n'est-ce pas? Le Seigneur dit, comme le Père m'a envoyé, moi je vous ai envoyé. Il y a une continuation de l'œuvre de Christ par le moyen des membres de son corps. De sorte que tête et corps forment au fond le Christ total. Et c'est pourquoi nous croyons que quand le Christ apparaîtra au monde, il apparaîtra dans sa totalité, c'est-à-dire tête et avec son corps. Alors qu'est-ce qu'il aura fallu avant? Qu'il ravisse auprès de lui les siens. Ce que nous appelons l'enlèvement de l'Église, dont on vous a dit, puisque je l'ai cité hier, n'est-ce pas, c'était une doctrine de démons. Je ne sais pas où l'on trouve ça. C'est quand même assez triste de tordre ainsi les Écritures. Alors il nous faut revenir aux Écritures parce qu'il est dit que c'est elles qui nous corrigent. Parce qu'on peut tous errer. Alors il y aurait évidemment bien d'autres choses à dire dans cet épître. aux Éphésiens. Et le Saint-Esprit donc nous habite. Et au chapitre 5 en particulier, je cite seulement ce verset, qu'est-ce qui nous est demandé? Chapitre 5, verset 17e. Ou 18. C'est pourquoi ne soyez pas sans intelligence, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, mais soyez remplis du Saint-Esprit. Soyez remplis du Saint-Esprit. Et si vous reprenez votre étude des actes, vous voyez qu'à plusieurs reprises, les apôtres ou des hommes de Dieu se sont trouvés remplis du Saint-Esprit, comme s'ils avaient une nouvelle onction. Ce n'est pas un nouveau baptême, le baptême du Saint-Esprit, nous avons compris ce que c'était. Mais l'onction, on peut la recevoir plusieurs fois. Et je me souviens, j'étais à Nazareth un jour, et il y avait un prédicateur qui disait que lui, quand cette onction lui était donnée, il sentait un picotement ici derrière la nuque. Pour lui, quelqu'un d'autre, c'est autre chose. Mais enfin, nous ne devons pas apporter simplement nos expériences comme doctrine, c'est pas cela. Ça peut se passer d'une façon très différente. Mais ce que j'ai remarqué, c'est que chaque fois que nous avons une grosse tâche, une grande tâche, le Seigneur peut nous renouveler. Et c'est ce que nous voyons qu'il faisait. Pierre, tout d'un coup, devait parler, il était rempli du Saint-Esprit. Ça n'est pas de lui. L'excellence de la puissance ne doit jamais être attribuée à l'homme, mais au Seigneur. Si, des Éphésiens, nous retournons dans les Galates, on revient en arrière, alors nous voyons au chapitre 4 que les Galates, leur défaut avait été de vouloir se replacer sous la loi. Ça ne suffit pas à la grâce, il faut être sous la loi. Et c'est une épître qui est très sévère, qui est envoyée par Paul aux Galates, parce que, au fond, en se replaçant sous la loi, qu'est-ce qui supprime? La grâce et l'œuvre de Christ. Car le Seigneur est venu pour nous libérer de ce joug de la loi, qui a été notre conducteur seulement jusqu'à Christ. C'est ce qu'il nous dit dans cet épître aux Galates. Mais je ne peux pas vous citer tous les versets. Galates 4, versets 4 à 6, au verset 3. Nous aussi, lorsque nous étions enfants, nous étions asservis aux principes élémentaires du monde. Mais lorsque les temps furent accomplis, vous devez bien comprendre ça, il y a un temps pour tout, Dieu a envoyé son fils, né d'une femme, né sous la loi, afin de racheter ceux qui étaient sous la loi. Alors, si nous sommes rachetés, est-ce qu'on est encore sous la loi? Non, c'est pour nous racheter. Pour que nous recevions l'adoption, cette adoption dont il est aussi parlé dans le chapitre 8 des Romains. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs quoi? L'Esprit de son Fils. Pourquoi est-ce qu'il l'a envoyé? Parce que nous sommes fils. L'Esprit de son Fils qui crie Abba, Père. Donc vous voyez l'unité avec l'Épître aux Romains. Ainsi tu n'es plus esclave mais fils, et si tu es fils, tu es aussi héritier grâce à Dieu. C'est le grand message de cet Épître aux Galates. Mais où nous avons lu aussi au chapitre 2e, où nous lisons, que nous avons été crucifiés avec Christ, verset 20, ce n'est plus nous qui vivons, c'est Christ qui vit en nous. Ma vie présente dans la chair, je la vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et s'est livré lui-même pour moi. Et puis alors, le chapitre 5, où vous avez d'abord le catalogue des œuvres de la chair, Et puis après, le fruit de l'esprit. Et qu'est-ce que c'est que le fruit de l'esprit? Chapitre 5, verset 22. Le fruit de l'esprit est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. La loi n'est pas contre de telles choses. Et au fond, c'est la vie du Christ. Le fruit de l'esprit, c'est la vie du Christ. C'est pas un à l'amour, un à la joie. C'est l'ensemble de toutes les grâces. C'est ce que le Christ donne. Il donne aux croyants, eh bien, un caractère agréable dans lequel le monde doit reconnaître Christ. Il ne faut pas dire, comme je l'ai dit quelquefois, « Oh, ma grand-mère était colérique, qu'est-ce que vous voulez, j'ai hérité cela. » Alors, je suis colérique. C'est pas bien de ma grand-mère. Pourquoi pas du grand-père, alors? N'est-ce pas? Si on est né de nouveau, est-ce qu'on revient avec toute cette idée de l'hérédité? La nouvelle naissance, c'est la nouvelle naissance. C'est pas une amélioration de la chair que nous avons été. Ce qui est né de la chair est chair. Et puis maintenant, je suis mort et enterré, et maintenant j'ai une vie nouvelle. Et c'est ça qui compte. Et tout cela vient de l'esprit. Et puis, vous pouvez continuer dans l'Épître aux Colossiens, au chapitre, dans l'Épître aux Philippiens aussi, nous pourrions nous arrêter, verset 3 du chapitre 3 des Philippiens, où il y a aussi question de l'esprit. Car les vrais circoncis, c'est nous qui rendons à Dieu notre culte. Par quoi? Par l'Esprit de Dieu. Qui nous glorifions en Christ Jésus et qui ne mettons pas notre confiance dans la chair. Hein, c'est clair. C'est toujours la même pensée. Dans Colossiens, au chapitre 1, verset 8, il nous a signalé de quel amour l'Esprit vous anime. Il parle d'un serviteur et qui est venu, Epaphras, qui est venu visiter Paul, et qui a signalé l'amour que les Colossiens avaient. Ça venait de l'Esprit. Tout est attribué à l'Esprit. Aux Thessaloniciens, eh bien, nous lisons dans la première épître que quand Paul y est allé, sa prédication a été une véritable démonstration de l'Esprit Saint. Je lis plus verset 4. Nous savons, frères bien-aimés, au chapitre 1er, de Dieu, que vous avez été élus, car notre évangile n'est pas venu jusqu'à vous en parole seulement, mais aussi avec puissance, avec l'Esprit Saint et une pleine certitude. Voilà comment Paul avait prêché aux Thessaloniciens avec une pleine certitude et ils avaient vraiment eu des résultats. Et c'est dans cette épître, enfin déjà dans l'épître aux Éphésiens, de ne pas attrister l'esprit et ici de ne pas éteindre l'esprit dans l'Église, en refusant que les dons se manifestent. Ne pas éteindre l'esprit. Verset 19 du chapitre 5. Mais vous voyez, c'est vraiment l'étude de la parole qui vous donnera des convictions. Maintenant, vous trouvez aussi dans les épîtres à Timothée, hein, première et deuxième, mais dans la première, je citerai seulement au chapitre 4, L'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, tous seront fidèles. C'est ça votre version? Dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi. Pour s'attacher à quoi? À des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Par l'hypocrisie de faux discoureurs, marqués au fer rouge dans leur propre conscience, ils prescrivent de ne pas se marier. Ben loin. Et de s'abstenir des aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce par ceux qui sont fidèles et qui connaissent la vérité. Or, tout ce que Dieu a créé est bon et rien n'est à rejeter pourvu qu'on le prenne avec action de grâce, car tout est sanctifié par la parole et par la prière. Voilà encore une parole qui nous donne de l'équilibre. Puis, je passe dans la deuxième épître à Timothée, au chapitre 1er, au verset 7e. Ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, un esprit d'amour et un esprit de conseil ou de sagesse. N'ayez pas honte du témoignage, mais Dieu ne nous a pas donné un esprit faible. C'est le Saint-Esprit. Et dans Tite, au chapitre 3, verset 4, lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés. Non parce que nous aurions fait des œuvres de justice, mais en vertu de sa propre miséricorde par le bain de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Il y a un renouvellement qui s'opère. Et c'est le renouvellement du Saint-Esprit. Après cela, nous pourrions voir encore dans l'épître aux Hébreux, je ne citerai que deux passages, il est appelé l'Esprit de grâce, chapitre 10, verset 29, puis l'Esprit éternel, chapitre 9, verset 14. Et puis, évidemment, au chapitre 3e, il est dit que le Saint-Esprit nous exhorte à ne pas endurcir quoi? Nos cœurs, tant qu'il est dit aujourd'hui. Si nous entendons sa voix, n'endurcissons pas nos cœurs. Ça, c'est le langage du Saint-Esprit. Et si vous avez écouté sa parole et que votre cœur n'est pas endurci, eh bien, vous serez béni et vous entrerez dans le repos du Seigneur. Maintenant, il y a les épîtres de Pierre, où nous lisons que c'est par le Saint-Esprit que les prophètes ont annoncé la venue du Seigneur. C'était l'Esprit Saint qui parlait en eux. Ce n'est pas leurs idées qu'ils ont prêchées. Puis, dans les épîtres de Jean, on trouve encore le sujet du Saint-Esprit. C'est par l'Esprit que Dieu habite en nous et que nous, nous habitons en Dieu. Alors, nous nous arrêtons là. Est-ce que vous êtes d'accord d'avoir un moment de partage entre vous?
Chers amis, j'aime à vous saluer dans le nom du Seigneur Jésus. Et je veux espérer que vous avez tous passé une nuit de repos et de paix. Il y a dans le chapitre 50 d'Ésaïe une parole qui m'a suivi tout au cours de ma vie et qui dit « Le Seigneur l'Éternel m'a donné une langue exercée pour que je sache soutenir par une parole celui qui est là. Il me réveille chaque matin. Il réveille mon oreille pour que j'écoute comme ceux qu'on enseigne. » Et alors, je lui avais demandé une parole avant de m'endormir pour que je sache quelle était la parole avec laquelle il voulait que nous terminions cette fin de semaine. Et à 3h30, il m'a réveillé. Et c'est la parole que j'ai mise sur ce tableau qui correspond au thème et qui nous dit ces trois choses. Vous connaissez ce verset, je pense, par cœur. Mais comme dit l'apôtre Paul, vous redire les mêmes choses, ce n'est pas pénible pour moi, disait-il, c'est votre sûreté. Alors le vœu qui termine cette retraite, qui est peut-être la dernière, tout cela c'est entre les mains du Seigneur, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est la première chose, et la seconde, l'amour de Dieu, et la troisième chose, la communion du Saint-Esprit soit avec vous tous, pas avec quelques-uns, mais avec vous tous. Alors vous recevez ces paroles, non pas de ma bouche, mais de la part du Seigneur. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, quel thème à méditer. Si la loi a été donnée par Moïse, nous savons, au chapitre 1er de Jean, que la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Et dans l'épître à Tite, il est dit que la grâce de Dieu, la grâce de notre Seigneur, est apparue à tous les hommes. Et cette grâce qui est apparue à tous les hommes, elle leur est apparue pour leur apporter quoi ? Le salut. C'est ce que nous trouvons dans l'épître de Tite. La grâce du Seigneur, elle est apparue. La grâce, c'est quelque chose qui est visible. C'est quelque chose que l'on doit voir et que l'on doit voir dans nos vies. Les gens qui nous côtoient doivent contempler quelque chose de cette grâce de Dieu. Nous vivons de la grâce de Dieu. Et il est dit que de sa plénitude, nous avons reçu grâce sur grâce. Donc la grâce, elle est pour vous. Il y a une grâce particulière pour vous dans vos circonstances personnelles. Vous pouvez être sûr. Alors, saisissez cette grâce. On ne peut pas vous forcer de recevoir cette bénédiction, mais elle est là. À nous de la saisir. À nous d'avoir les mains vides d'autre chose pour dire « Cette grâce, je la reçois. » Le Seigneur connaît la grâce dont vous avez besoin et son cœur est si plein d'amour qu'il vous la donne. À vous de la saisir. Saisissez la grâce. C'est aujourd'hui le temps favorable, c'est aujourd'hui le jour du salut. Eh bien, que la grâce du Seigneur Jésus-Christ vous soit donnée. Maintenant, l'amour de qui ? L'amour de Dieu. Où est-il cet amour de Dieu ? Nous l'avons vu dans les épîtres. Il a été versé dans nos cœurs. Il a été versé dans nos cœurs par le Saint-Esprit. L'amour de Dieu. Et qu'est-ce que c'est que l'amour de Dieu ? Bien, c'est l'amour du Père. L'amour que le Père avait pour Jésus. Et comme j'ai souvent souligné, c'est quelque chose qui me bouleverse chaque fois que j'y pense. Nous sommes aimés par Dieu du même amour qu'il aimait qui ? C'est pas bouleversant ? L'amour que Dieu avait pour son Fils, c'est le même amour que Dieu veut nous témoigner et que Dieu veut que nous connaissions. Dans ce monde sans amour, les chrétiens devraient être ceux qui connaissent l'amour de Dieu. Vous vous souvenez qu'un jour on avait mis sur ce tableau le Père lui-même vous aime. Qui a dit cela ? Le Père lui-même vous aime. C'est Jésus. Alors nous pouvons le croire. Que l'amour de Dieu vraiment soit avec vous. Qu'est-ce que vous avez besoin de plus ? L'amour de Dieu. Et enfin, la communion du Saint-Esprit. Oh, nous ne voulons pas connaître autre chose entre nous que la communion du Saint-Esprit. Et si nous avons vraiment saisi cela, que nous voulons vraiment partir de ce lieu en restant dans la communion du Saint-Esprit, cette communion que le Saint-Esprit a avec le Père et avec le Fils, eh bien, nous désirons, nous aussi, que ce qui nous caractérise comme croyants, c'est que nous avons communion les uns avec les autres, mais par quoi ? Par le Saint-Esprit. Et cela nous préparera pour cet après-midi où nous serons appelés à répondre au désir du cœur du Seigneur Jésus, notre Sauveur, qui a dit en instituant la Sainte Cène, ce qui était appelé l'Eucharistie, eh bien, il a dit, faites ceci en mémoire de moi. Nous désirons terminer cette retraite en oubliant toutes les autres choses et en concentrant nos yeux et nos cœurs sur le Seigneur Jésus et l'œuvre parfaite qu'il a accomplie dans cette rédemption où il nous a rachetés, non pas avec de l'or et de l'argent, mais avec le sang précieux qu'il a versé à Golgotha. C'est la parole que je vous laisse, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, cette grâce surabondante, là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Que la grâce vous soit donnée, bien que vous la saisissiez maintenant. Que l'amour du Père vous soit sensible. Voyez-vous, c'est ça le premier amour. C'est pas que nous l'avons aimé, mais c'est que lui nous a aimé, le premier. Et quand on sait cela, qu'il nous a aimé alors que nous étions haïssables, on est prêt à adorer. Et nous voudrions que toute cette retraite se termine présent dans une adoration sainte et dans la communion du Saint-Esprit. Sommes-nous en communion les uns avec les autres ou avons-nous quelque chose contre notre frère, contre notre sœur? Eh bien, nous avons encore quelques heures, si cela est nécessaire, pour savoir demander pardon, pour savoir s'excuser. Car voyez-vous, dans nos relations fraternelles, ce qui compte, ce n'est pas que moi j'ai raison, mais c'est que le Seigneur ait raison. Sur vous et sur moi. C'est ça qui compte. C'est pas que nous ayons raison. Nous avons tort de bien des manières. Alors, quand nous sommes sensibilisés sur ça, eh bien, nous ne perdons pas la paix, mais nous allons vers notre frère, vers notre sœur. Et puis, tout est réglé. Car voyez-vous, quand on prend la scène, au début, dans l'Église primitive, nous l'avons souvent souligné, il la prenait quand ? Chaque jour. Et alors, ça correspondait à une autre parole de saint Paul, que le soleil ne se couche pas sur votre colère ou sur votre irritation. Les disputes dans vos ménages ou entre frères ne devraient pas durer plus d'un jour. Si on prend la scène tous les dimanches, nos difficultés ne devraient pas durer plus d'une semaine. Si on la prend tous les 15 jours, ça ne devrait pas durer plus de 15 jours. Hélas, entre chrétiens, ça dure des fois depuis des années. Et entre les églises, nous n'en parlons pas, c'est des siècles. Eh bien, que le Seigneur nous parle et que nous soyons les croyants d'aujourd'hui, car le mot du Saint-Esprit, c'est aujourd'hui. Dieu notre Père. Nous sommes émus en pensant que c'est peut-être la dernière fois que tu nous permets cette immense grâce d'avoir pu vivre alors que nous venons de milieux différents, que nous sommes d'endroits différents. Tu nous as réunis ici dans ton amour, l'amour de Dieu. Et nous voudrions quitter ce lieu en sachant ce que c'est qu'aimer et qu'être aimé. Tu sais que dans ce monde, il y a tant de personnes qui voudraient éprouver cet amour. Eh bien, l'ayant reçu, que nous puissions l'apporter à d'autres et que notre coupe dépense. Bénis ces derniers instants que nous passons ensemble et donne-nous cette certitude de se revoir éternel dans la gloire où tu nous appelles.